RFI.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur Tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur Tropicale.
Tu montes, on monte, tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie pas.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée.
La voix de mes sévères.
Toi-même tu
sais. Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Mamadi et Rafiou. Nous sommes ici dans le théâtre de verdure de l'espace Gambidi à Ouaga et nous serons dans la capitale burkinabé jusqu'à lundi prochain. Et c'est en public que nous enregistrons cette première émission consacrée à la génération consciente. Le Burkina, bonne arrivée! Le public nombreux venu pour s'exprimer. Dans cette séquence de la génération consciente, ce sont les femmes et les hommes présents ici qui vont s'exprimer tout à l'heure. Nous avons deux grands témoins pour cette première émission. Vous le savez, nous sommes ici à Ouaga dans le cadre de la 14e édition de Ciné Droit Libre. Et je vous demande d'applaudir comme il se doit celui qui préside aux destinées de ce festival majeur pour le Burkina et pas seulement, monsieur Abdoulaye Diallo, s'il vous plaît. Abdoulaye, bonne arrivée.
Merci, Claudie.
Merci beaucoup. 14e édition et la thématique est justice, levez-vous.
Merci. mais en tout cas, on est très heureux de te recevoir pour cette 14e édition. Ça fait donc 14 ans que nous avons fait ce rêve qui est parti d'une censure. On a réalisé un film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Le film était de très bonne qualité parce qu'il est passé dans tous les festivals qui comptent. Dans tout le monde entier, le film Boribana est passé, sauf au Burkina Faso. Aucune salle, aucune chaîne de télé. On ne veut pas voir ce film. On a tout essayé. On a même donné le film aux pirates. Les pirates même ont eu peur de pirater le film. Claudie.
Incroyable.
Et je vous dis, c'est vécu. On a multiplié des CD, des DVD. Mais est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Non. Il faut qu'on réagisse. Et c'est là que l'idée de créer ce festival est né, une plateforme où tous ces films qui parlent aux gens, qui plaisent aux gens, qui éduquent, puissent aussi avoir droit de cité. Ainsi est né Ciné Droit Libre en 2005 et nous sommes à la 14e édition. Et pas seulement au Burkina. Donc, ils ont censuré un film, ils ont récolté un festival de films qui se déroule au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger et qui est réclamé partout. Bientôt, on va faire une édition en Gambie. Voilà la réponse que nous, on a donnée.
Ciné Droit Libre, c'est également un vivier extraordinaire de femmes et d'hommes engagés. Et certains sont venus grossir les rangs du ballet citoyen.
Et il faut savoir que la première fois que Smokey et Sam Skalodja ont annoncé le ballet citoyen, c'était sur une scène de Ciné Droit Libre. Voilà aussi ce que peut représenter Ciné Droit Libre. Et on sait ce que le ballet citoyen a fait dans ce pays-là.
Il aurait pu juste jouir de ses victoires artistiques. Il aurait pu se contenter d'être un artiste prospère. Et puis, malheureusement pour certains ou heureusement pour la majorité, il est né avec les yeux bien ouverts sur les réalités du monde et sur les réalités de son Burkina Faso. Et c'est pour cela qu'au-delà de la musique, il s'engage pour lui. Smokey, s'il vous plaît. Bonne arrivée, Smokey.
Merci, Claudie.
Smokey, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Et je sais que dans la vie d'un artiste, d'être obligé de jouer un rôle qui n'est pas forcément le sien, même si c'est celui du citoyen, ce n'est pas simple parce qu'il faut faire des choix. Au risque de ta vie, souvent tu n'en parles pas, mais permets-moi de le dire, en octobre 2014, l'engagement du ballet citoyen aurait pu te coûter la vie. Ton studio a été détruit. Mais toi, tu es toujours là. Le matériel n'est rien lorsque les esprits continuent à vivre et à s'exprimer. Alors, je voudrais juste dire que lors de la cérémonie d'ouverture, mon cher Smokey, l'hommage que tu as rendu aux militants qui sont tombés ou ceux qui, comme Folie Sachivi, incarcérés en grève de la faim, L'hommage que tu leur as rendu était un hommage qui nous a tous bouleversés, qui a bouleversé les personnes présentes. Et que tu aies pensé à Folie Sachivi de cette façon-là, que tu aies pensé à Luc, mort aujourd'hui, assassiné dans sa maison, brûlé dans sa maison, que tu aies pensé à Moussa, que tu aies pensé à Biram et à tous les autres, et prouve à quel point tu es un homme d'engagement, mais surtout tu es un homme de parole, tu ne lâches personne. Qu'as-tu envie de nous dire pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à cette cérémonie d'ouverture de Ciné Droit Libre? Qu'as-tu envie de nous dire sur cet hommage que tu leur as rendu?
Ben, c'était des camarades de lutte, et c'est vrai que c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on se souvient de tous ces moments-là. Et puis justement, on ne mesure pas assez l'engagement de tous ces activistes. On a l'impression toujours qu'ils font un travail finalement de fourmis qui leur profite, qui ne profite qu'à eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est très souvent au péril de leur vie qu'ils suivent leurs convictions. On mesure la jeunesse à la capacité de s'engager. J'entendais Jacques Attali dire ça, mais c'est très beau. Et pour moi, c'est ça. Je ne conçois pas autrement la vie que de s'engager, que de défendre ses positions et ses convictions. Je trouve que c'est la plus belle des choses qu'on peut attendre de la vie. Et lorsque j'ai la chance de rencontrer des camarades aussi déterminés que Folie et que Luc, franchement, je leur tire mon chapeau, d'autant qu'ils ont dû payer le prix ultime. Et ça, effectivement, on ne le rappelle pas assez souvent. Beaucoup ici de combattants, Norbert Zongo, Sankara, ont eu à payer le prix ultime. Parfois, c'est vrai qu'on est déçus. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatalistes. C'est pour ça qu'on dit que la lutte continue, elle ne s'arrête jamais. Il faut continuer, je crois que c'est chaque génération qui doit jouer sa partition. Voilà, et nous, on a tenté de jouer la nôtre, et on continue d'essayer de la jouer encore.
La thématique de cette 14e édition donc, de Ciné Droit Libre, justice, levez-vous. Abdoulaye, on aurait également pu tutoyer la justice. Justice, lève-toi, que l'on te juge.
Mais c'est toutes les justices, en fait, qu'on interpelle. Et c'est pour ça qu'on dit levez-vous. Vous avez assez dormi, parce qu'il faut arrêter de dormir en classe.
Smoké.
Moi, je crois que c'est aussi un jeu de mots avec accusé, levez-vous.
Bien sûr.
Voilà, et particulièrement au Burkina Faso, je pense que c'est important de rappeler. C'est vrai qu'il y a des magistrats, des juges qui se battent, mais malheureusement, il y en a aussi qui camouflent des dossiers, qui escamotent des dossiers. Et c'est très souvent, c'est important de ramener les fondamentaux de la morale et de l'éthique qui doit toujours faire partie des gestes quotidiens de ces gens qui prêtent serment pour faire ce métier-là.
Alors, qu'entendez-vous par justice, levez-vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? Qui souhaite prendre la parole?
Je suis Ouattara Stéphane Bassalia, étudiant en première année de communication et journalisme à l'Université Ouaga 1. Selon moi, c'est les crimes de sang commis dans le passé. C'est pour dire que c'est une interpellation. Il est temps que nous rendons justice aux disparus. Je prends par exemple le cas de Norbert Zongo. Je ne l'ai pas connu. Ouais. Mais par le biais des recherches, je sais déjà qui était et je connais déjà son état d'esprit. C'était un journaliste, écrivain engagé, et par le biais même de ses écrits, tu n'as pas besoin de le connaître pour savoir qui était-il. Smokey l'a dit, et le corps Abdoulaye aussi l'a souligné, les personnes qui sont passées sur ces sillons, ils ont souffert et continuent de souffrir. Mais l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est ce que disait Thomas Sankara. Comme le disait encore Joseph Kizerbo, Nan Lara, en Sarah. Donc on ne doit pas baisser les bras.
Merci beaucoup.
Moi, c'est Tankwano Théodore. Les droits des hommes sont déchirés. Personne ne respecte rien. Et à mon avis, justice, levez-vous, ce n'est pas ceux qui sont capables seulement de juger. C'est aussi la responsabilité de tout un chacun. Ensemble, je pense qu'on peut quand même arriver là où il faut.
Merci beaucoup, Théodore.
Je suis Chekna Yaranagore. Il y a une jeunesse qui est là, qui a payé le prix ultime. Une trentaine de morts. Plus tard, il y a eu un coup d'État. Il y a eu 13 à 16 morts. Tout ça est passé. Donc, on a fait l'insurrection, la résistance au coup d'État. Après, on nous dit que les textes ont été votés et que la justice est désormais libre. Sous Blaise Compaoré, on nous disait que c'est parce que la justice n'était pas libre qu'on ne pouvait pas rendre justice à Norbert Zongo, à Thomas Sankara, à tous ceux-là qui ont été lâchement assassinés. Maintenant, on nous dit que la justice est libre et que le pouvoir politique ne peut plus manipuler la justice. elle est dépolitisée. Mais jusque-là, ça fait 4 ans, on attend toujours que justice soit faite. Il y a 20 ans de cela, il y a un élève du nom de Flavien Nébier qui, lors d'une manifestation, a été tué. On attend que justice soit faite. Quand on dit au juge, mais pourquoi vous traînez les pas, ils disent que non, ce n'est pas eux, c'est le droit. Le peuple attend, les jeunes sont impatients et je pense qu'on a une justice qui est vraiment en train de dormir. Et il va falloir secouer cette justice-là pour qu'elle se réveille. Merci.
Très bien, Cheikh. Alors, garde le micro. Tu as soulevé une question qui est essentielle. Est-ce que le peuple peut croire que la justice est indépendante? Ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande. Ce n'est pas l'indépendance. C'est de juger en son âme et conscience et de juger les puissants comme les petits et de la même façon.
Exactement. Il y a un exemple simple qu'on vit actuellement.
Oui.
On a l'ASE, voilà, ceux qui se chargent de contrôler les dépenses au niveau des ministères, des administrations publiques. Chaque mois, pratiquement, les rapports sortent. On les publie dans la presse. Et lorsqu'on dit à l'ASE, mais vous faites vos rapports, après, il n'y a pas de suite. Ils disent, non, c'est la justice qui doit se bouger. Quand on dit à la justice, elle dit que non, ce n'est pas eux, c'est plutôt les textes. Bon, finalement, on est perdu. C'est qui est sur quelqu'un d'or. On a eu un peuple, une jeunesse insurgée.
Oui.
Mais à la suite, on n'a pas eu des juges. Je ne dis pas tous les juges. Voilà.
Bien sûr.
Donc, que les juges intègres m'excusent.
Bien sûr.
Tous les juges n'ont pas suivi la dynamique de l'insurrection. Tous les politiques n'ont pas suivi la dynamique de l'insurrection. Du coup, il y a un blocage à quelque part.
Merci beaucoup, Cheikh, parce que là, vous ouvrez un champ extraordinaire. Alors, je vais me tourner vers nos deux témoins. Oui,
juste un commentaire sur ça. Et en fait, ce que le précédent intervenant a voulu dire, c'est qu'après l'insurrection, il y a eu, pendant la transition, un effort qui a été fait pour toiletter les textes, pour rendre la justice du Burkina un peu plus indépendante. Mais le paradoxe, c'est que maintenant, on a l'impression qu'il y a une vraie séparation de pouvoir, mais quand le parlementaire déconne, on tire sur le parlementaire, quand le gouvernement déconne, on tire sur le gouvernement, mais quand la justice déconne, on tire encore sur le gouvernement. Normalement, on doit être en droit de tirer plutôt sur la justice, on doit attaquer les juges. Les magistrats ont acquis une très grande indépendance au Burkina Faso, avec aujourd'hui, c'est les mieux traités de la fonction publique. Donc normalement, on doit être en droit d'attendre de ces gens-là vraiment un travail propre.
Il y a des juges corrompus, il faut le dire, à l'intérieur du système, même s'il y a des juges honnêtes. Alors, chacun essaye de plus ou moins se couvrir ses arrières. On évite de taper sur telle ou telle personne parce qu'on se dit, si on commence, on a peut-être aussi soi-même, entre guillemets, son derrière quelque part. Mmh. Et donc voilà, il y a un jeu de dupes comme ça, une certaine hypocrisie qui plane. Par exemple, on a voté une loi très intéressante sur le délit d'apparence. Mais qui a déjà entendu qu'un monsieur ou une dame qui mène une vie plus que rutilante au regard de son salaire,
ouais,
a été entendu par la justice? Personne. Parce qu'on n'ose pas commencer, parce que si on commence, on va être obligé d'attaquer tout le monde. Parce qu'il y a un sacré panier à crabes ici, au Burkina Faso, des gens qui effectivement sont dans tous les coups bas. Et donc dès qu'on démarre, c'est comme l'effet domino. Voilà, ça va partir comme ça. Et puis finalement, on va se retrouver avec un... Peut-être qu'on va perdre les 4/5 du gouvernement. Parce que dans la réalité, ce sont tous des escrocs, pour la plupart. Rien ne justifie le fait qu'ils travaillent dans le public, serviteurs du peuple, et qu'ils aient autant de moyens. Burkina Faso, le pays le plus pauvre du monde, un des pays en tout cas le plus pauvre du monde, on se retrouve avec des ministres qui ont des voitures dernier cri.
C'est vrai que... Nous sommes quand même sur un continent, mais il y a d'autres continents comme ça, hein, en Amérique du Sud aussi, dans certains pays d'Asie, où lorsqu'on entre en politique, on s'enrichit. Grande villa, grosse voiture, boum, jet privé. Ouais, c'est étonnant. Avec l'argent de l'État, toi-même tu...
Mon nom est Mindie Bawali, je suis blogueur. Peut-être que la justice même doit aussi communiquer sur un peu ses procédures et autres. Souvent, très souvent, peut-être le justiciable se dit telle ou telle chose doit se faire de façon très rapide comme ça, alors que peut-être il y a des procédures en la matière. Et la justice aussi brille par ce silence-là. Donc il y a également un besoin de communication de la part de la justice.
Est-ce que sur ton blog, tu traites de ces problèmes de justice ?
On peut dire ça. Sur mon blog, j'aborde des questions un peu de société, des faits de société. Mmh. Je soulève souvent, très souvent, les questions d'infrastructure, les promesses de routes non réalisées. Bon, c'est pas forcément lié à la justice, mais au moins des promesses de politiciens de ce pays qui disent des choses et les échéances passent, mais rien ne se passe.
Tu es dans l'action, dans le civisme.
Exactement.
Bon, peux-tu donner le nom de ton blog ?
libayouali.wordpress.com.
Oh, c'est trop compliqué. Faut pas avoir un truc plus simple.
En fait, je n'ai pas encore payé le domaine. Et quand c'est gratuit, il y a forcément la particule wordpress.com. Sinon, le nom du domaine, c'est Libayuale.
Merci beaucoup. Applaudissez Wally, s'il vous plaît.
Je suis Valérie Ada, étudiante en communication. Enfin, la justice injuste a rencontré des justiciers.
Oh, bravo. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Valérie.
Bonsoir, moi, je m'appelle Barou Kenen, je suis étudiant en lettres modernes de l'Université Joseph Kizerbo. Ce qui m'a frappé, c'est la communication à travers l'image. Un juge qui est assis sur une montagne de dossiers.
Une pile de dossiers, oui.
Ouais.
Ouais. Oui, parce que le juge n'a même pas les pieds qui touchent le sol.
Le pied n'arrive même pas à toucher le sol.
Exactement.
Ça m'a rappelé automatiquement Thomas Sankara. Mais ce qui est frappant est que pendant la Révolution, le mot de justice n'était pas la même chose que la justice bourgeoise.
C'est-à-dire?
Il a fait un discours à la maison du peuple.
Oui.
Où il disait, ce que j'ai retenu, que nos juges viennent souvent avec les toges importées, avec des perruques, souvent ils ressemblent à des guignols, et ils récitent des articles qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas, les tenants et les aboutissants. Bon. Et il a dit que cette justice, c'était une justice bourgeoise qui ne permet pas aux pauvres de s'exprimer. C'est pour dire tout simplement, Ciné Droit Libre a fait un travail vraiment magnifique, parce qu'on a remarqué qu'en 4 ans, ce que Sankara a fait, en 27 ans, les gens n'ont pas pu faire ça. Et ce qui me rappelle, ce qui me fait vraiment mal, est qu'en 2006, sur le dossier Norbert Zongo, on a parlé de non-lieu.
En 2006.
En 2006, non-lieu.
Nous sommes en 2018.
Nous sommes en 2018. On a changé, c'est Diallo qui le disait, on a donné l'indépendance à la justice sans changer les juges. Et ça me rappelle tout simplement une fois, Maître Kam, que j'y respecte très bien, lui, il était juge. Mais quand il a vu les pratiques, ce qui s'est passé à l'intérieur, lui ne pouvait pas continuer. C'est pourquoi il a laissé tomber ça pour devenir avocat. Et depuis la semaine dernière, on a une bonne nouvelle pour ce qui concerne la venue du petit président, le roi télé.
L'ex-petit président
du Burkina Faso qui va venir nous dire ce qu'il sait sur le dossier Zongo, un dossier barba au Burkina Faso. Il faut dire que c'est déjà des espoirs. Okay.
Il va venir de son propre chef. Non, ne réponds pas.
Oui.
Alors on va passer le micro. Voilà.
Je suis Kafando Napin-Absom. Sur la thématique, ce que je comprends, c'est la pluralité de justice. Je comprends qu'il y a la justice moderne qui a suffisamment montré ses limites, qui doit se lever pour répondre de ses actes. Au village, les gens s'adonnent aux boissons frelatées que je combats et ne s'intéressent plus aux pratiques traditionnelles. Alors que traditionnellement, il existait une justice qui était pragmatique et très rapide. Je comprends aussi qu'il y a une justice ancestrale. Je comprends dans justice ancestrale, tous ceux qui sont passés de vie à trépas du fait de malhonnêtes, du fait de criminels. Je pense à mes ancêtres qui ont été déportés. Je pense aussi à des gens comme Thomas Sankara, qui n'ont pas été que physiques, qui ont été aussi spirituels. Je pense à Norbert Zongo, qui est spirituel. Je pense à Patrice Lumumba. Je pense à Frantz Fanon. Je pense à Kwame Nkrumah, qui peuvent se réunir en lobby spirituel et agir sur le physique que nous sommes. Je pense aussi à la justice divine, le grand patron de l'humanité, qui doit maintenant se lever parce que beaucoup de personnes meurent au Yémen, en Centrafrique, en Palestine, qui sont fauchées, même aux États-Unis, fauchées en France. Beaucoup de vies perdues en RDC. Et lui, en tant que grand patron de l'humanité, il doit être sensible au sang de ses enfants qui sont versés impunément.
D'accord. C'est intéressant, hein? Je pense avoir trouvé la thématique de la 15e édition de Ciné Droit Libre. Dieu, levez-vous. Alors certains répondront, si tant est que Dieu existe. Génération consciente, ici à Ouaga.
Bonsoir, je me nomme Wedrago Roxane, élève en classe de première au lycée technique Charles Abjuri. Par justice, levez-vous, j'entends le sentiment d'insatisfaction du peuple.
Oui.
Mais quand on dit justice, levez-vous, c'est quelle justice? On a l'impression que la justice du Burkina, c'est ceux qui veulent faire la justice et non ceux qui doivent faire la justice. Il faudrait vraiment que le peuple ramène ceux qui doivent faire la justice parce que on a l'impression que c'est le gouvernement qui fait la justice. Et la justice devrait passer par le peuple. Or qu'il y a une majorité qui lutte pour la justice, mais la minorité qui ne lutte pas pour la justice, elle est corrompue. Or que si cette minorité est corrompue, on ne pourra jamais avancer comme ça.
C'est un beau résumé de ce que tout le monde a dit. Applaudissements, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Esprit de synthèse, alors là, est-ce que la justice passera et nous dira qui a fait assassiner et a tué Thomas Sankara et Norbert Zongo,
ça à ton avis? Ça se pourrait.
Oui.
Ça se pourrait. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. Ça poursuit toujours. Il n'y a pas de fin. Ça se pourrait, mais ça serait dans très longtemps. Il faudrait juste changer la mentalité.
Prends ça. Applaudissements. Merci beaucoup. Effectivement, les questions de mentalité, elles sont évidentes, elles sont au centre même des préoccupations, les questions de mentalité. Lorsque vous avez des individus qui ont des responsabilités et qui se comportent mal, lorsqu'il y en a un au milieu des 10, ça va. 2, ça va. 3, ça commence à être compliqué. Lorsque vous avez une majorité, il est impossible de construire, de bâtir quelque chose collectivement qui soit donc propice pour l'émancipation du peuple et pour la prospérité de la nation et de la collectivité. C'est tout le problème. Question de mentalité et ça passe par l'éducation.
Gaël Loussala Mavambou, je viens du Congo, mais je suis au Burkina depuis 2010. Je suis artiste, comédien, conteur. Moi, je dirais que la justice n'a jamais existé. Une chose existe lorsqu'elle existe pour de vrai. Ça, c'est Gaël. C'est maintenant que la justice doit naître, puisqu'on en parle.
Tu parles de la justice au Burkina ?
Partout, il y a l'injustice.
En ce qui concerne Norbert Zongo et Thomas Sankara, penses-tu qu'enfin, le peuple burkinabé et toutes celles et ceux qui, à travers le monde, s'intéressent à ces deux personnages-là et veulent savoir qui les a assassinés, penses-tu que bientôt, la justice passera et que nous saurons ?
Il faut commencer par un lavage de cerveau.
Lavage de cerveau ?
Tout à fait. Pour moi, c'est des banalités, quoi. Il faut d'abord que ceux, soi-disant nos dirigeants, quittent le pouvoir.
D'accord.
Voilà, qui nous foutent la paix. Et là, nous aussi, on pourra supposer être indépendants.
D'accord.
Et en ce moment, la justice pourra naître.
Quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir, mon cher Abdoulaye.
Je comprends bien le sentiment qui habite Gaël. Au Burkina Faso, pendant les 27 ans, la question qui n'a jamais satisfait le Burkinabé, c'est justement la question de la justice. Blaise Compaoré a été chassé. Ça fait 4 ans et les Burkinabés sont toujours insatisfaits de leur justice. C'est pour ça d'ailleurs que symboliquement, dans le cadre du dossier Norbert Zongo, on a décidé, pour signer droit libre le 13 décembre, de faire le procès de la justice. Et c'est la justice traditionnelle qui va faire le procès de la justice moderne, qui accuse la justice moderne d'avoir fait 20 ans sans avoir été capable de juger l'assassinat d'un digne fils de ce pays. Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître Norbert Zongo. J'ai eu la chance de travailler avec Norbert Zongo. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité de l'être humain qu'on a perdu le 13 décembre 1998. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça.
Ouais.
Et en plus, on le tue, on le brûle. Et 20 ans après, on n'a toujours pas rendu justice à Norbert Zongo. Je comprends donc le sentiment de Kaye.
On est bien confronté à une mentalité, à une sorte de virus inoculé chez les uns et les autres, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses et qui finalement font si peu pour que ce changement vienne se moquer.
Oui, je crois qu'il faut aussi rester objectif quand même, parce que ce n'est pas 20 ans sous ce régime, c'est quand même 16 ans sous le régime de Blaise Compaoré. Et il n'y avait aucune raison que ce dossier-là soit résolu avec les premiers impliqués même qui étaient au pouvoir. Mais le dossier a été donc réouvert sous la transition. Il y a quand même de l'espoir au regard de ce que la justice française vient de donner comme acquis, c'est-à-dire l'accord pour éventuellement pour l'extradition de François Compaoré, même s'il a été contré. La justice n'a pas réussi à être l'ami du peuple. Je crois que c'est Tocqueville qui disait qu'il n'y a pas de grands hommes sans vertu. De même, il n'y a pas de grand peuple sans respect des droits. Si vous prenez un homme honnête et vous le mettez au sein d'un groupe de malhonnêtes, il n'arrivera certainement jamais à convaincre tout le monde d'être honnête comme lui. Mais vous prenez un seul malhonnête, vous le mettez dans un groupe de gens honnêtes, vous allez voir qu'à la fin, tout le monde va être malhonnête. Parce qu'il y a plus d'intérêt à être malhonnête qu'à être honnête.
13 décembre 98, un journaliste du nom de Norbert Zongo est assassiné au Burkina Faso, en compagnie de trois autres de ses camarades. Un crime à mettre une fois de plus sur le compte de la 4ème République. Une République que nous appelons vivement à écouter les forces citoyennes de la nation. Il va bien falloir que les vrais coupables paient pour ce crime. Non Lara, en Sara. Alors, cette chanson est un appel à la réouverture du dossier Zongo. Je vais vous demander de bien vouloir entonner le refrain avec nous. C'est très simple, ça fait un truc comme ça. Mais dis-moi qu'ils vont payer pour ce crime. Dis-moi qu'ils vont payer pour ce crime. Ils vont payer pour ce crime. Ils vont payer pour ce crime.
Dis-moi qu'ils vont payer pour ce crime. Mais dis-moi qu'ils vont payer pour ce crime. Ils vont payer pour ce crime. Ils vont payer pour ce crime. Mais dis-moi qu'ils vont payer pour ce crime. Mais dis-moi qu'ils vont payer pour ce crime. Ils vont payer pour ce crime. Ils vont payer pour ce crime.
Lorsque vous accordez moins d'intérêt à l'éducation, on voit les ravages que cela fait aujourd'hui en Afrique. En 20 ans, le budget de l'éducation d'une grande partie des pays d'Afrique francophones, je dis bien francophones, a été divisé par deux, voire par trois. Les résultats, nous les avons aujourd'hui. Allez, justice, levez-vous.
Je me présente, je m'appelle Fer Kalbo Moïse Kemaï, étudiant tchadien. Ici résident ici à Ouagadougou. C'est une interpellation des prises de conscience à nos autorités, nos autorités politiques. Oui. Parce que lors de mon parcours académique où j'ai eu la chance de faire un stage dans un cabinet d'avocats au Tchad, je suis passé à la justice, j'ai vu, c'est triste. Il y a des dossiers des femmes victimes des viols qui traînent là-bas. Et aucun juge n'est capable de prendre ça, même nettoyer, pour pouvoir programmer des audiences. Nous ne le voyons pas. Alors pour moi, justice, levez-vous, c'est une interpellation des prises de conscience à ces juges. C'est pour qui ils ont prêté serment pour ça, je le jure.
Car le juge est juste que pour endosser son salaire, souvent peu courageux et pas du tout téméraire, j'en connais qui doivent vraiment rester à l'abri, tant la pourriture a atteint le niveau de parodie. Coupable de non-assistance à journalistes en danger, c'est eux qui mettent en danger toute la communauté. On n'a plus droit au repos, on a perdu Norbert. Il abattait le travail de toute une génération. Que l'on reprenne le flambeau. Et c'est ce qu'on attend de vous, que nous reprenons tous ce flambeau, pour qu'enfin la vérité et la justice jaillissent.
Merci beaucoup, Smoké. Il y a tant d'injustices. Il y a une injustice flagrante commise envers la jeunesse africaine. Que ce soit cette jeunesse qui décide de rester au pays et de se battre, heureusement, et c'est l'immense majorité, ou cette jeunesse qui décide de partir parce qu'elle est persuadée, convaincue que sur sa terre natale, elle ne pourra pas justement s'accomplir, réaliser ses rêves. Et lorsque l'on est jeune, on pense qu'on est immortel. Lorsque l'on est jeune, on est persuadé que le monde nous attend et que le monde nous appartient et qu'il n'y a pas de raison. Et surtout aujourd'hui, on regarde le monde justement, on sait ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas de raison que l'on soit bloqué, fermé chez soi, alors que l'on pense avoir la capacité de faire des choses extraordinaires pour soi, mais aussi pour les autres. Je voudrais qu'on parle de migration maintenant. Je voudrais qu'on parle de cette jeunesse qui reste, qui se bat, et de cette jeunesse qui décide de partir.
Moi, c'est Prince Mike, je suis artiste-rappeur.
Salut, Prince. Ah oui.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de fuite de cerveau, mais on parle peu de la demeure de cerveau. Il y a des jeunes qui ont la vingtaine, qui ont 30 ans, qui ont les compétences qu'il faut pour diriger des localités, pour diriger des institutions, mais on ne leur fait pas confiance. Ça veut dire qu'en Afrique, quand tu es jeune, on ne t'octroie pas, on ne te confie pas des responsabilités qui peuvent te permettre de pouvoir exprimer tout ton potentiel. Ce qui fait que finalement, la jeunesse se sentant délaissée, se sentant marginalisée et négligée, est obligée d'aller vers d'autres cieux pour pouvoir s'exprimer. Et moi, j'ai des promotionnaires avec lesquels on a étudié en anglais. Une fois qu'ils vont avec les diplômes de l'autre côté, on a été diplômés en anglais, en maîtrise anglaise, j'ai vu des partenaires qui sont allés de l'autre côté. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu la possibilité d'avoir des jobs. Et ils ne nous narguent pas. Mais quand ils renvoient ce qui se passe là-bas dans leur vie, on se demande, mais pourquoi est-ce que nous sommes restés ici? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas partis? C'est décourageant parce que on n'est pas mis en valeur à la hauteur de ce qu'on mérite. Je pense qu'il jalouse un peu la jeunesse.
Oui.
Oui, parce que quand des jeunes compétents arrivent dans des...
Ils jalousent la jeunesse.
Oui. Ouais. Quand des jeunes compétents diplômés arrivent dans des institutions, quand tu commences à t'exprimer, vous là, vous parlez trop. Vous parlez trop, vous pouvez faire quoi? Donnez-nous au moins l'opportunité de prouver ce qu'on peut.
Prince Mike, es-tu solidaire des jeunes qui décident de partir?
Moi, je les comprends. Je les comprends parfaitement. Mais je ne peux pas encourager cela. Parce que si nous tous, d'accord, on devait partir demain, il n'y aurait pas de dirigeants ici.
Merci de le dire comme ça.
Moi, je suis Soub Zenabou. Je suis étudiante du CEFRAV. Je suis togolaise. Si j'ai insisté à prendre le micro, c'est juste pour vous dire merci. Merci à Ciné Droit Libre d'avoir permis à mon frère étudiant, que vous avez projeté le film hier, d'exprimer son chagrin. Parce que...
Il s'agit de Folie sa TV.
Oui, oui. Il y a peu d'opportunités. Il y a des choses qui se passent injustes, mais... Ça ne sort même pas. Je dirais, les Burkinabés ont chance qu'il y a des dossiers, 20 ans, c'est un procès. Eux, ils ont même chance. Chez nous, dès que tu lèves ton petit doigt, on le coupe. Et ça dort comme ça. C'est comme si rien n'était. Rien n'était. Donc, vraiment, merci beaucoup. Moi, comment je comprends justice, levez-vous. C'est que nous, jeunes, levons ensemble nos petits doigts. Et s'ils vont passer leur temps à couper nos petits doigts, jusqu'à quand ils vont finir de couper ces petits doigts, les autres doigts seront, et ils ne finiront jamais de couper ces petits doigts. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On évoquait la jeunesse, la migration, les jeunes qui restent, les jeunes qui partent. Y a-t-il injustice, justement, envers cette jeunesse-là?
Ok. Je m'appelle Sidibé Moussa, en classe de terminale D au lycée Thomas Sankara. Les gens ont tendance à confondre l'illusion à la réalité. Moi, je peux être dans un quartier populaire de Ouagadougou comme à Karpala, mais ça ne m'empêche pas, je pars à Ouagadougou 2000 devant une grande villa, je pars m'arrêter, ok, ouais, voici, je suis ici, je poste. Ou bien, maintenant, c'est à nous qui sommes restés là de savoir lire derrière l'image, de savoir est-ce que c'est qu'il a donné, l'impression qu'il a voulu nous faire savoir, est-ce que c'est ça qui vient en réalité? Moi, j'ai vu des gens qui sont partis il y a des années parce que j'ai eu la chance de grandir dans les villages et les provinces de Burkina Faso, là où les gens quittent beaucoup pour partir en Europe. Quand ils sont revenus, mais c'est une réalité très différente. C'est loin de ce qu'il avait envoyé, que nous, on a vu comme image. Mais moi, je pense que si tu décides de rester, il ne faut pas douter de toi. Il faut croire en toi. Il faut te dire que je suis resté, j'ai mes raisons. Lui qui est parti, il a ses raisons. Et moi, je dois chercher à défendre pourquoi je suis resté et non pas chercher à savoir pourquoi je ne suis pas parti.
Merci Moussa. Alors, merci de dire de respecter le choix des uns et des autres. Ça, c'est important. Le respect doit être au cœur de nos mentalités, de nos comportements, de nos réactions, de nos attitudes face aux autres. Et nous aimons à dire que s'il y avait le respect au cœur de nos actions, dans notre rapport à l'autre, 50% des combats engagés seraient remportés. Donc merci de le dire comme cela. Juste rappeler également que le plus gros de la migration en Afrique, c'est une migration interafricaine. Ce n'est pas une migration uniquement vers l'Europe. C'est important aussi de le dire.
Voilà, Claudie, excusez, hein. Vous savez, vous êtes un grand frère. Quand vous avancez des arguments, j'ai l'impression que vous êtes une grande personne. Mais souvent, moi, j'écoute les grandes personnes. Ouais. Et les grandes personnes disent, ne cours pas aller voir ce qui vient. Assois-toi à ta place et attends ça. Est-ce que fuir le futur, est-ce que fuir ce que tu es destiné à vivre là, est-ce que ça te rend libre? Oui, je le comprends, quand ils partent, il y a une situation nationale. Mais combien de temps vont-ils continuer à fuir? Est-ce que ce qui fuit ici et cette injustice qui part trouver là-bas, ce n'est pas plus pire que ça?
Merci beaucoup, Moussa.
Merci.
Le sens des responsabilités. Est-ce la responsabilité d'un jeune d'assumer la malgouvernance, la corruption?
Je suis Zida Mohamed Ibrahim. Je me suis rebaptisé Zida Rilwende pour des besoins de conformité avec une idéologie que je défends, qui est le panafricanisme. Quand vous partez parce que ça ne va pas, et qui va rester ici en Afrique et résoudre les problèmes pour que vous reveniez après rester avec eux. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ça fait chaud au cœur de voir des Ivoiriens avec tout le potentiel qu'ils ont,
quitter la Côte d'Ivoire, traverser le Burkina, traverser le Niger, aller traverser la Libye et vouloir rejoindre l'Europe à la nage. C'est écœurant, mais c'est dû à quoi? C'est dû à la malgouvernance, c'est dû au mauvais partage des ressources que le pays a. C'est pareil pour un pays comme le Burkina Faso. Les gens diront que bon, le Burkina est pauvre, mais moi je ne dirais pas que le Burkina est pauvre, mais je dirais que nous avons des mentalités pauvres. On a entretenu la pauvreté dans la conscience du Burkinabé. Et le Burkinabé vit au quotidien avec cette mentalité de pauvre. Et donc, ça ne lui permet pas de se dégourdir et de travailler pour que son pays avance. Donc, les responsabilités sont partagées. Mais aussi, on va pointer du doigt l'Europe qui vend une illusion à l'Afrique à travers les médias. Les médias de propagande qui sont là chaque fois, c'est une Europe où il fait beau vivre, c'est une Europe de gratte-ciel.
Quels sont ces médias de propagande?
Bon, les médias de propagande, on ne le dira pas assez, mais il y a les médias comme France 24 qui font la propagande, et il y a d'autres médias au-delà de France 24 qui font la propagande.
Regarde-moi. Tu sais, je suis tout sauf un imbécile. Et toi, tu n'es certainement pas un imbécile.
Surtout pas.
Tu sais que, ben oui, tu sais que France 24 et RFI, c'est la même chose. Donc, si tu avais été sur France 24, tu aurais dit, oui, des médias comme RFI et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et tout. Ce que je veux juste te dire, tu vois cette parole-là que nous avons là. S'il y avait propagande, tu ne pourrais pas l'exprimer sur ce média-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, son univers, son monde, on se le crée. Tu sais, on est quelques-uns qui, depuis de nombreuses années, essayons de dire au continent, il faut créer vos propres structures médiatiques. Tant que l'Afrique ne contrôlera pas son information, son image sera toujours peu conforme à sa réalité. Et c'est la responsabilité de l'Afrique. Je te laisse terminer.
Ok, merci bien. Mais avant de pointer du doigt peut-être l'Europe, je suis quand même revenu sur la responsabilité de la jeunesse africaine en premier et la responsabilité des dirigeants africains. Donc quand on pointe aussi l'Europe, il ne faut pas que les gens s'offusquent parce que les responsabilités
sont... Mais non, mais tu peux pointer l'Europe parce qu'elle a aussi sa part de responsabilité. Voilà, justement. Très clairement. Très clairement.
Vous aviez évoqué tantôt le système éducatif. Et chaque fois, c'est un combat que nous menons. Il faut réformer le système. Mais on ne peut pas vouloir réformer le système avec des gens qui sont là, qui s'enrichissent ou qui vivent grâce au système.
Et qui souvent sont complexés.
Très complexés d'ailleurs.
Bah oui.
Et moi, je le dis en connaissance de cause. Je suis avec une organisation sur le campus. Vous serez demain avec nous. Nous avons entamé en 2016 une activité qui est la célébration du Nouvel An africain. Nous, on valorise le continent africain à travers de petites actions. Mmh. Et dans cette dynamique, nous avons été voir le ministère de l'Éducation nationale. Et je t'aide la délégation. Nous sommes allés voir le secrétaire général du ministre, son DIRCAB, et nous avons évoqué un certain nombre de trucs qui étaient la nécessité de réformer le système éducatif. Et quand nous avons exposé les faits, le DIRCAB du ministre nous a clairement dit que ce qu'on voulait qu'on intègre dans l'enseignement ici au Burkina Faso et en Afrique singulièrement, et je vais parler du prophète Joseph Kizerbo, parler du camarade Norbert Zongo, mais il nous a dit que c'était du passé. Enseigner Norbert Zongo ou Joseph Kizerbo ou Cheikh Anta Diop à l'école, c'était du passé. Alors qu'on enseigne un monsieur comme Voltaire qui est un négrier au lycée. Mais les gens ne s'en offusquent pas. Mais quand c'est nous, c'est du passé. Alors, donc le mal, il est profond. S'il est profond, c'est une volonté politique qui peut résoudre le mal. Tant qu'on n'a pas résolu le problème du système éducatif, soyez sûrs, les gens vont toujours migrer vers l'Europe à la nage. Ouais. Et ce serait vraiment dommage pour tout le continent.
Merci beaucoup. Merci. Juste dire sur les questions de mentalité, il faut lire François Fanon, Peau noire et masque blanc. Il faut vraiment lire ça. Ce n'est pas juste un homme qui combattait toutes les formes de néocolonialisme et de colonialisme, pardon, à son époque, mais c'était un scientifique, médecin psychiatre. Donc le fonctionnement du cerveau humain, le comportement humain, il le connaît, il sait. Lisez Peau noire et masque blanc et peut-être que beaucoup en apprendront sur leur comportement et sur les raisons du comportement de certains. On va se quitter dans un instant. Je voudrais vous poser une question. Une question. Quelle est pour vous la plus grande des richesses d'un pays, d'Afrique, quel qu'il soit? Quelle est la première des matières premières?
D'accord, je m'appelle Kabore Claude.
Claude, bonne arrivée.
Merci beaucoup. Je suis étudiant en marketing et gestion à l'IBAM.
Mm-hmm.
Je pense que c'est la même de les jeunes. Les jeunes, la main d'œuvre.
La main d'œuvre,
oui,
ok.
Oui, oui.
Merci pour la parole, je suis Dacier.
Oui.
Bon, c'est pour dire que pour ma part, c'est la culture qui est la plus grande richesse.
La plus grande des richesses, c'est la culture.
Oui, elle est culturelle.
La première des matières premières, c'est la culture.
La culture.
Plus grande richesse d'un pays. Oui. D'accord.
Ouais, moi, je m'appelle Ouédraogo Gilles. Je pense que la plus grande richesse d'un continent, c'est l'éducation.
L'éducation,
ouais,
d'accord.
C'est l'éducation. Oui, bonsoir. Moi, je pense que la plus grande richesse, c'est le capital humain. La population, les hommes et les femmes qui y vivent.
Moi, je pense que la plus grande richesse de l'Afrique, c'est la jeunesse.
C'est vrai que sur un continent où certains vous disent, si on avait, enfin en tout cas en Afrique francophone, notre propre monnaie, on serait plus riche. Si on nous permettait de mieux gérer nos matières premières, on serait beaucoup plus riche. Certains disent dans certains pays, parce que je pose souvent la même question, on me dit c'est l'uranium, c'est, on parle de bauxite, on parle de coltan, on parle de pétrole. Vous parlez de capital humain, de main d'œuvre. On était très proches. Dans un pays, le Niger, il y a un jeune qui a été, mais il n'a pas tergiversé, il a donné la réponse immédiatement. Il a dit la plus grande des richesses d'un pays, c'est l'intelligence de chaque individu et mise en collectivité, ça donne une intelligence collective qui permet de bâtir la richesse en réalité. Regardez tous les pays pétroliers sur le continent. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas plus riches ou qu'il n'y ait pas de niveau de vie plus élevé que dans d'autres pays qui n'ont rien, qui n'ont pas toutes ces matières premières-là ? Regardez la Corée du Sud, par exemple, qui était quasiment au même niveau en termes de niveau de vie, au même niveau que le Burkina Faso, à la fin des années 60. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la Corée du Sud soit l'un des pays qui dispose le plus de cash à travers le monde, mais qui surtout, surtout, détient une technologie que l'ensemble du monde lui envie, en termes d'industrie également. On voit bien que la richesse, elle se crée par les individus, par sa capacité à mettre en réseau les intelligences. Je voudrais qu'on se retourne pour terminer ce programme vers nos deux témoins, nos deux grands témoins, Smokey. Qu'as-tu retenu de tout ce qui a été dit ? Et en ce qui concerne peut-être aussi cette dernière question sur la première des richesses.
Vrai. Beaucoup de choses ont été dites et très intéressantes. Effectivement, ce ne sont pas les richesses qui créent les individus, ce sont les individus qui créent les richesses. Les richesses, elles, divisent plutôt les individus, il faut le dire, malheureusement, depuis des siècles et des lustres. Et effectivement, il faut prendre conscience, c'est quoi le peuple ? En fait, le peuple, dans son sens littéral, on pourrait dire, ou direct, c'est la majorité à problème, en tout cas dans nos États africains. Quand on sait que cette jeunesse-là, de moins de 25 ans sur le continent, ça représente 65 à 70 %, vous vous rendez compte des futurs problèmes que nos dictateurs et nos dirigeants se cherchent, parce que, effectivement, à un moment donné ou à un autre, ça va exploser. Ça va exploser parce qu'on n'a pas su gouverner, parce que gouverner, c'est prévoir. On a l'impression que nos élites intellectuelles, qui ont aussi failli, il faut le dire, il y a aussi ces causes-là, des élites intellectuelles qui ont failli et qui, effectivement, ne s'affichent pas, ne s'assument pas. Ou en tout cas, quand elles s'assument toujours du bon côté de la balance, c'est-à-dire à ceux à qui ça profite. Effectivement, Prince et plein de gens aussi l'ont souligné, on ne célèbre pas assez ceux-là qui restent sur le continent pour se battre. Et on a l'impression quelque part qu'il n'y a aucune gloire, aucune gloriole à rester sur le continent, à essayer de faire évoluer son pays, à essayer de mettre la main à la pâte. Et on célèbre plutôt ceux qui partent. Mais regardez, quelqu'un parlait tout à l'heure d'impérialisme culturel, d'aliénation et tout. Regardez à l'aéroport. Ici, quand quelqu'un va à Banfora ou à Bobo-Dioulasso ou bien à Lomé, qui accompagne, c'est rare qu'on l'accompagne pour partir, même à l'aéroport. Mais quand c'est pour Bengue, hein, là c'est Paris, Londres, bien United States of America, mais c'est tout le Boeing qui vient. Toute la famille est là, le grand-père, la tante, le cousin du neveu, de l'oncle, de la nièce. Ouais, ils sont tous là. Donc tellement pour eux, là, ah, mon fils, ma fille est devenue grande aujourd'hui. Elle s'en va chez les Blancs. Donc il y a un problème effectivement aussi d'impérialisme culturel. On est arrosé du matin au soir, du soir au matin, par des exemples finalement d'humanité qui nous viennent, je vais dire, d'une certaine façon de vivre son humanité, qui nous viennent de l'Occident, et qui n'est pas toujours d'ailleurs en phase avec nos réalités culturelles. Sankara avait insisté là-dessus. Consommons burkinabé, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Or aujourd'hui, il se trouve qu'on consomme, je pense sans exagérer, 80% de ce que nous consommons, voire même plus, vient de ce tailleur-là. Et lorsque vous prenez exemple sur la Corée du Sud, tu as tout à fait raison, Effectivement, cette Corée du Sud, quand on analyse aussi toute l'Asie en réalité, comment elle décolle, etc., effectivement, il y a un point sur lequel ils ont su quand même s'appuyer, c'est leur culture. Et ils ont réussi quand même à conserver leur identité culturelle, et c'est vachement important. Comment pouvons-nous, comme disait Joseph Kizerbo, quand on essaye de rattraper, un wagon ne pourra jamais dépasser une locomotive. Il faudrait créer une autre voie. Parce que l'idée, c'était quoi? Les Occidentaux nous disent, c'est nous qui sommes devant, alors il va falloir que vous rattrapiez votre retard. Comme si nous, on se développait sur la même ligne, on avait la même vision, etc. Et l'erreur que beaucoup de nos dirigeants africains ont fait, effectivement, c'est tenter de rattraper la locomotive, ce qui ne sera jamais possible, effectivement. Il faut réinventer son avenir, comme disait Sankara. Il faut trouver sa propre voie de développement pour faire en sorte de stopper la saignée. Parce que quand on regarde les témoignages, et moi j'ai rencontré des jeunes, qui ce sont des gens qui ont été torturés, qui ont traversé le désert, qui ont perdu toute leur famille, leurs camarades en mer. Et quand ils arrivent enfin misérables sur la terre qu'ils convoitaient, on leur pose la question si c'était à refaire. Est-ce que vous le referiez? Sans hésitation, ils disent oui, pour leur grosse majorité. Et c'est ça qui fait mal. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, on sent qu'ils sont vraiment traumatisés, ils sont désespérés. Voilà. Et c'est ça, nous avons cette mission ici, nous, en tant que, qu'Africains, qui restons pour nous battre sur le continent, de justement faire en sorte que ce désespoir-là disparaisse, qu'il soit remplacé par une conviction, qu'il soit remplacé par des envies de changer son quotidien, des envies de changer, de renverser la vapeur et de faire en sorte que demain, effectivement, nous soyons plutôt ceux-là qui sont visités par les Européens et non pas l'inverse.
Ouais. Merci beaucoup. Smoky applaudissements, s'il vous plaît. Abdoulaye Diallo, un dernier mot.
Juste un dernier mot. Juste dire que c'est un problème d'éducation. Je pense qu'aussi bien les Occidentaux sont mal éduqués sur leur présumée supériorité, nous aussi on nous a trop éduqués dans notre supposée infériorité. Le jour où j'ai eu peur de moi-même, c'est quand j'ai réalisé que quand je prends l'avion, quand le pilote est blanc, je suis rassuré. Pendant que quand c'est noir, là j'ai eu peur de moi-même. Et je me suis dit, là, il y a un gros problème. Et je pense que c'est ça qu'on doit régler, ce problème d'éducation. Pourquoi quand c'est un blanc, je suis rassuré, et quand c'est un noir, je flippe un peu? C'est depuis ce jour, je dis, j'ai un gros problème. Il y a une grosse maladie que je dois soigner en moi. Et je pense que nous tous, on a ce problème. Aussi bien les Occidentaux qui pensent que, parce qu'éduquer pour être supérieur, et nous aussi qui sommes toujours dans ça, il y a un travail à faire parce qu'on est tous malades.
Voilà. Merci beaucoup Abdoulaye Diallo. C'était ça l'idée, c'est de faire entendre qu'un autre modèle de civilisation est possible, de rapport entre les uns et les autres, et quelles que soient les lourdeurs ou les affres de l'histoire. Et puis, la génération consciente, ce que nous partageons avec vous est un esprit justement de les uns et les autres s'expriment, les uns respectent les autres. Et notre devise, vous la connaissez, hein, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Merci beaucoup.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.